Merci OKS de m'avoir proposé de faire cette première présentation. J'ai donc choisi de vous parler de mes travaux et plus particulièrement du premier travail que j'ai réalisé. C'était ma thèse qui a été publiée et là rééditée. Vous avez la couverture aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales qui a donné lieu depuis 2-3 ans à des initiatives pour diffuser au plus grand nombre, au-delà d'un livre de 300 et quelques pages, les connaissances sur ce travail qui envisageait les relations entre Paris et la Seine. Donc mon exposé sera agrémenté des bulles sonores que vous pouvez écouter, vous avez le flyer avec le site, les bulles sont hébergées sur le site de l'EHESS et vous pourrez écouter la totalité des 19 bulles. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout vous faire écouter. Donc c'est à la fois vous présenter mes travaux et vous montrer que j'ai le souci avec une collègue du CNRS, Sarah Gainsburger, de mettre à disposition du plus grand nombre ces connaissances. Donc, ce travail portait sur les relations entre Paris et la Seine. C'est un sujet qui semble presque évident et banal aujourd'hui, tant on parle de la Seine pour diverses raisons, à la fois les crues et les polémiques autour de la piétonnisation des berges. Elle est aussi connue pour être le symbole de la capitale. Elle figure sur les emblèmes de Paris. Et pourtant, aujourd'hui, même si on est dans une phase de reconquête avec Paris Plage, avec donc ce parc Rives de Seine qui a ouvert depuis 1 an et demi, la Seine a perdu, à partir du XVIIIe siècle, tout son poids urbain et tous les rôles qu'elle rendait aux Parisiens qui étaient obligés de la fréquenter. C'est un peu cette histoire que je vais vous raconter. Je vais vous remettre finalement une Seine plus vivante. Sous les yeux. Alors, aujourd'hui, on va fréquenter la Seine surtout pour se promener et puis surtout pour admirer les monuments qui l'abordent. Paris est né sur la Seine, dans l'île de la Cité. Le pouvoir royal s'est aussi installé à plusieurs, que ce soit dans l'île de la Cité ou au Louvre, au bord de la Seine. Donc, c'est un lieu polarisant pour la capitale. Mais là, je vais surtout vous parler des activités que les Parisiens et les Parisiennes avait sur les bords du fleuve. Alors, là, vous avez un plan du XVIIIe siècle. Juste quand même quelques rappels pour vous l'exposer. C'était découvrir ou se promener au bord de la Seine en écoutant les bulles sonores. Mais là, je vais quand même vous faire une présentation de l'espace, évidemment très rapide. Il faut juste se remémorer qu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a beaucoup moins de ponts qu'aujourd'hui dans les limites du Paris actuel. De l'époque, une dizaine de ponts seulement, ce qui fait que pour traverser entre rive droite et rive gauche, on est obligé d'emprunter les ponts et donc ils sont constamment congestionnés et connaissent une très grande affluence. Il faut ajouter des petits bateaux, un peu, vous savez, comme à Venise, qui font passer à la demande de la rive droite sur la rive gauche. Vous voyez que là, vous avez trois îles, l'île de la Cité, la plus grosse, l'île Saint-Louis, qui a été lotie au XVIIe siècle. Avant, c'était deux petites îles qui étaient de la verdure et sur lesquelles on allait se battre en duel. Et puis, l'île Louviers, qui, elle, a été rattachée à la rive droite, c'est le quai Henri IV, au XIXe siècle. Elle servait uniquement de marché au bois. Il y avait une quatrième île, mais qui est en dehors du plan, qui était à peu près en face des Invalides, qui s'appelait l'île aux Cygnes, qui a été rattachée à la rive gauche au début du XIXe siècle. Donc, au XVIIIe siècle, la Seine coupe la ville en deux, et cette coupure est vraiment très forte, puisque c'est plus difficile et plus compliqué de passer de la rive droite à la rive gauche. D'ailleurs, alors oui, voilà, les ponts en plus sont pour la plupart d'entre eux construits. C'est vrai que quand je raconte ça, on me dit « Ah bon, c'est comme à Florence, c'est comme à Venise. » Oui, le pont Notre-Dame, le pont Auchange, le pont Saint-Michel étaient surmontés d'immeubles de 5 étages. Donc vous voyez, passer sur un pont, et la chaussée était étroite parce qu'il y avait aussi l'emprise des maisons. Et puis là, sur ce pont, le pont Notre-Dame, vous avez à l'avant la pompe Notre-Dame qui prélevait l'eau pour la distribuer dans les fontaines. Alors comme c'est compliqué de traverser le fleuve, il y a toutes sortes de projets que j'ai trouvés dans les cartons d'archives au XVIIIe siècle. Là, on est vraiment quasiment sous la Révolution française, c'est Giraud. Vous voyez que son idée, c'est une sorte de téléphérique, hein, avec des cabines qui ressemblent à des bateaux. C'est-à-dire qu'il y a tellement de projets de ce style que ça montre aussi la nécessité et le besoin de franchir le fleuve pour la vie urbaine. Donc, en quoi Paris a besoin de la Seine ? Eh bien, une extrême diversité des métiers qui sont installés sur le fleuve et qui font vivre la ville. J'ai parlé de la pompe Notre-Dame tout à l'heure. Il y a donc une armée de porteurs d'eau. Hein. Paris consomme, l'eau consommée à Paris, à peu près la moitié vient de la Seine, donc directement, hein, sans être filtrée. Sans... Elle est donc distribuée par les... par les porteurs d'eau qui vont dans les maisons distribuer cette eau. Il y a des puisoirs au bord de la Seine qui sont protégés pour ne pas être encombrés. Et puis vous avez des pompes, j'ai montré la pompe Notre-Dame, il y a aussi une pompe dont le nom est assez connu sur le pont Neuf, la pompe de la Samaritaine, qui a, le nom a été récupéré ensuite pour le grand magasin actuellement en travaux. Et également des abreuvoirs, puisque rappelez-vous qu'à l'époque, pour circuler, c'est le cheval, et le cheval, il faut lui donner à manger, donc on fait venir du foin par les ports de Paris, et il faut des descentes en pente douce, comme celles qui existent encore aujourd'hui, pour faire descendre les chevaux au bord de la Seine. Ce qui est vital pour Paris, c'est évidemment le trafic des marchandises. À peu près 2/3 des marchandises consommées par la capitale arrivent par bateau. Alors... Tout arrive par bateau, sauf les animaux qui vont au Châtelet pour être abattus à la boucherie de Paris, qui est autour du Châtelet, là où il y a la place du Châtelet aujourd'hui. Et donc, au XVIIIe siècle, on avait assez de bon sens pour se dire que les animaux vivants allaient se rendre à pied sur leurs quatre pattes, et donc on ne les met pas sur des bateaux. Par contre, sur les bateaux et sur les ports de Paris, on va trouver le bois. Le bois, c'est vital parce que c'est pour chauffer et c'est aussi pour cuisiner. Donc, c'est une matière première indispensable. Des céréales, du charbon de terre et de bois, du foin, je l'ai dit, du vin aussi, du fer, du papier, de la chaux. Et beaucoup de ces produits arrivent dans le port Saint-Paul, qui est au niveau de la rue Saint-Paul aujourd'hui. C'est-à-dire, avant de rentrer dans la capitale, on dépose tous ces produits. Et là, vous avez une représentation de ce port fort animé. Alors, il est très animé. Pourquoi ? Parce que non seulement les provisions arrivent par la Seine, mais toutes les provisions qui arrivent par la Seine doivent être vendues dans les bateaux. C'est obligatoire. Donc la Seine n'est pas juste un endroit de flux pour faire arriver des marchandises qui ensuite seraient vendues dans des boutiques dans la ville. La Seine est un vaste supermarché que tout le monde doit fréquenter pour aller acheter ses denrées. On a aussi, donc voilà, sur l'île Louviers, c'est celle qui est au milieu, vous voyez ces empilements de bois, parce que le bois arrivait donc en descendant depuis les régions boisées de l'est de Paris sous forme de radeaux. Et ensuite, il fallait empiler le bois pour qu'il sèche, parce qu'avec du bois mouillé, vous ne pouvez rien faire. Donc il fallait une rotation sur une année, et donc il fallait beaucoup d'espace pour empiler ce bois et qu'il sèche avant d'être vendu. Ici, le port de la Grève. Le port de la Grève, c'est celui qui est au pied de l'hôtel de ville. C'est le port originel depuis le Moyen-Âge de Paris. Mais on voit bien sur ces images, vous voyez, vous avez le Charmont au premier plan. Vous avez des sous-secteurs par provision. Donc tout ça est extrêmement organisé. Hein. C'est pas du tout j'arrive avec mon bateau et je me gare où je veux pour vendre ma marchandise. Tout ça est extrêmement régulé. Et puis là, le port Saint-Nicolas, qui est au pied du Louvre, et qui accueille plutôt les bateaux qui viennent de la mer, hein, enfin, qui arrivent jusque-là. Et ces bateaux apportent notamment des produits exotiques qui viennent des colonies, donc des épices, des teintures, et donc des produits qui valent plus cher, parce que pour remonter ces bateaux depuis la mer, on est contre le courant, et donc il faut utiliser le halage, et ça coûte beaucoup plus cher. Alors que les bateaux qui arrivent au port Saint-Paul, à l'entrée de Paris, en gros vers la Bastille, eux descendent au fil de l'eau. Donc vous voyez, il y a toute une organisation, il y a aussi une allure des bateaux fort différente selon le port où ils vont arriver. Donc au XVIIIe siècle, c'est pour ça que j'ai commencé mon travail à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à avoir une sorte de saturation, on n'arrive plus à apporter suffisamment de marchandises. Pour vous donner une idée, un bateau qui arrive pour débarquer et donc vendre sa marchandise, parfois doit attendre un mois avant de pouvoir se mettre à port. Et là, si vous voulez, le système ne marche plus parce qu'un bateau de céréales qui attend un mois, vous imaginez l'état de la cargaison une fois qu'il arrive à port. Donc c'est aussi ça qui va déclencher les transformations du fleuve que je vais vous présenter assez rapidement. Pour finir sur les ports, vous avez tout ce trafic et toute cette organisation du commerce fluvial se fait sous l'égide du prévôt des marchands. Ici, le plus célèbre, Étienne Marcel, dont la statue est proche de l'hôtel de ville. Le prévôt des marchands, comme son nom l'indique, c'est l'homme qui dirige la corporation des marchands de l'eau, c'est-à-dire cette association à laquelle sont affiliés tous les marchands qui font trafic de marchandises pour arriver jusqu'à Paris. Et depuis Saint-Louis, ils ont une exclusivité pour maîtriser ce trafic. Il se trouve que Étienne Marcel avait des ambitions politiques et il a émergé au XIVe siècle comme, on va dire, le représentant de la ville face au roi, le prévôt des marchands devenant une sorte d'ancêtre du maire de Paris. Hein, le dernier a perdu la vie le 14 juillet 1789. Autre type d'activité, autre métier, c'est tous ces activités qui ont besoin de l'eau. Alors, des pêcheurs, il y a des filets qui sont tendus sous les arches des ponts, il y a des pêcheurs à la ligne aussi, des meuniers, il reste encore des bateaux avec des roues qui transforment les céréales en farine, mais il y en a de moins en moins au XVIIIe siècle parce qu'il y a beaucoup de moulins à vent qui ont été installés autour de Paris, donc là c'est une activité résiduelle. Et puis, il y a des bateaux à lessive. On a, là, vous voyez une carte, chaque point, c'est un bateau qui accueille 24 blanchisseuses. Il y a à peu près 80 bateaux à lessive, sachant que dans ces bateaux à lessive, ici une image du XXe siècle, c'est ces bateaux qui ont résisté le plus longtemps. Le dernier est parti en 1942. Il a quitté la Seine à Paris en 1942, sachant que ces blanchisseuses lavait le linge du petit peuple de Paris. Ce n'était pas du tout le luxe que de donner son linge à blanchir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les maisons. Donc on ne pouvait pas laver son linge chez soi. Et les nobles et les bourgeois aisés faisaient laver leur linge en dehors de Paris, dans une eau plus pure que celle de la Seine à Paris. Donc c'est une activité absolument centrale. On a aussi des bateaux de bain. On va se baigner. Le prévôt des marchands impose de se baigner à la fois pour se laver, mais aussi pour se rafraîchir et s'amuser dans des bateaux qui accueillent les femmes et les hommes séparément. Et il est interdit, formellement interdit, de se baigner n'importe où dans la Seine. La baignade sauvage est interdite, mais elle est fortement pratiquée, comme en témoignent les interdictions réitérées qui sont probablement peu respectées. Alors, le dernier lieu de bain, alors avant l'ouverture de la piscine Joséphine Baker, c'était la piscine de Ligny, hein, qui en fait est née à la fin du XVIIIe siècle et qui a été ensuite reprise. Au début, c'était une école de natation et puis c'est devenu une piscine qui, dans les années 60-70, était un haut lieu parisien de la mode qui a coulé en 1993 au grand désespoir de tous ceux qui la fréquentaient pour aller bronzer. Elle était en gros au pied du musée d'Orsay. Alors, d'autres métiers, on va dire plus techniques, par exemple les tripiers. Donc les tripiers, ce sont des gens qui récupèrent les tripes auprès des bouchers qui sont donc autour du Châtelet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui donc nettoient les tripes dans la Seine. Les tripes sont très appréciées par les Parisiens parce qu'il ne faut pas oublier qu'acheter de la viande, c'était cher. Donc les tripes, c'était un produit protéiné, on va dire un peu bas de gamme. Donc ils lavaient les tripes dans la Seine et ensuite ils les cuisaient dans des grands échaudoirs et on a très très peur de l'incendie comme à Londres en 1666. Et donc là, je vais, plutôt que de vous décrire longuement ce que font les tripiers, vous faire écouter donc une bulle à propos des tripiers, donc dans la balade sonore que je vous ai proposée.
Jean de la Seine.
Les tripiers. Vous voilà au Châtelet. Fermez les yeux. Oubliez tout ce que vous voyez du centre de Paris aujourd'hui. Ces salles de spectacle, ces beaux cafés, ces touristes. Au XVIIIe siècle, à la place du théâtre du Châtelet, il y avait une prison. Un vrai château fort, haut lieu de l'autorité du lieutenant général de police. Autour de la prison, c'était le quartier des bouchers, où tous les animaux arrivaient pour être abattus. Ouais, là, au cœur de Paris. Essayez d'imaginer l'immense désordre de bœufs et de moutons conduits à l'abreuvoir par les ruelles sinueuses et surpeuplées du quartier. Et puis la course des garçons bouchers pour attraper ceux qui s'échappent, les ruisseaux de sang dans les rues, le transport des entrailles. Autour des bouchers, forcément, gravitaient les tripiers, qui récupéraient les abats. Alors, vous êtes prêts ? Ouvrez vos oreilles et bouchez-vous le nez. Voici l'histoire des tripiers.
Il y a 6 familles qui ne sont occupées qu'à cet emploi. Ceux qui composent ces familles, mari, femme, enfants et domestiques, sont occupés pendant le jour à vider, à laver et à nettoyer dans la rivière le long du quai de Gèvres, toutes ses issues et intestins, et pendant la nuit à les faire cuire. Tous les matins, à la pointe du jour, ils les exposent en vente dans de grandes mannes d'osier au-devant de leurs portes.
Certes, les Parisiens étaient très friands des tripes, mais tout de même, en 1760, les tripiers sont sommés de partir. Pourquoi ? Écoutons la police.
Que cette vidange et ce nettoiement ont déjà donné lieu à un atterrissement si considérable par les matières qui se sont successivement déposées qu'ils forment un obstacle à l'approche et à la mise à port des bateaux.
Oui, vous avez bien compris. Tous les déchets sanguignolants, gluants, puants, ces boyaux, ces viscères, ces excréments avaient fini par encombrer tellement le fleuve que les bateaux ne pouvaient plus passer.
Que d'un autre côté, les habitants des quartiers Saint-Denis et Saint-Martin sont exposés à une telle infection, principalement pendant les chaleurs de l'été, que leurs marchandises et leurs meubles en souffrent le plus grand dépérissement.
Sans compter les risques d'incendie, car les tripiers faisaient cuire les abats dans d'énormes chaudrons et récupéraient la graisse pour en faire du savon. Devant leur refus de partir, de nouveaux tripiers obtiendront un privilège du roi pour s'installer dans l'île des Cygnes, en aval. Et peu à peu, bouchers et tripiers disparaîtront du Châtelet.
Voilà, donc je reviendrai peut-être dans les questions sur la façon qu'on a utilisée pour fabriquer ces bulles. Hein. Vous avez vu qu'il y a une alternance de voix, c'est des acteurs, et vous avez des lectures de documents d'archives que j'avais sélectionnées. Donc on est au plus près du travail de l'historien et de l'historienne. Donc, à côté des tripiers, vous avez aussi les teinturiers de la rue de la Pelleterie qui ont besoin évidemment de l'eau pour teindre leur tissu. Et puis, toute une série de commerces qui souhaitent être proches du fleuve puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, près du fleuve, il y a tout le temps affluence et donc là, vous êtes sûr d'avoir de la clientèle. Il y a des échoppes, des toutes petites boutiques démontables dans lesquelles on vend, vous avez une vendeuse de loterie que vous pourrez écouter, on vend des marrons, des tripes, de la quincaillerie, des billets de loterie, donc voilà, toutes sortes de petites boutiques qui attendent la clientèle. Il y a aussi des métiers qui étalent, un peu comme les puces hein, sur les quais régulièrement, sur le quai de la Mégisserie, vous avez des quincailliers. Et puis des boutiques qui sont installées sur les quais et sur les ponts, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ponts construits. Et là, je vous emmène sur le pont Notre-Dame et dans une boutique célèbre du pont Notre-Dame.
Jean de la Seine.
Les habitants du pont Notre-Dame.
De là où vous êtes, en tournant la tête vers la droite, vous voyez le pont Notre-Dame. Il est élégant, avec sa grande arche métallique. Au XVIIIe siècle, il avait bien plus d'arches. Et surtout, comme beaucoup d'autres ponts parisiens, il portait des maisons de 5 étages. Toutes sortes de locataires y vivaient, les plus riches dans les étages inférieurs, et au cinquième, des artisans et des blanchisseuses qui pouvaient louer des chambres. Au rez-de-chaussée, c'était des boutiques de luxe, merciers, orfèvres, peintres. D'ailleurs, permettez-nous de vous présenter le sieur Gersin, marchand joaillier.
Enchanté !
Dont l'enseigne a été peinte par Watteau lui-même.
Mais oui, absolument.
Il vous recevra avec affabilité dans sa très belle boutique et vous proposera...
toutes sortes de clincailleries nouvelles et de goût. Bijoux, glaces, tableaux de cabinet, pagodes, vernis et porcelaines du Japon, coquillages et autres morceaux d'histoire naturelle, cailloux, agates, et généralement toutes marchandises curieuses et étrangères.
Vous l'aurez compris, le pont Notre-Dame est l'un des endroits les plus chics de Paris. Pourtant, il y a des inconvénients à vivre sur un pont. Le premier étant le fleuve qui coule en dessous.
Les eaux de la Seine ont augmenté si considérablement depuis le dégel et elles sont couvertes d'une si grande quantité de glaçons que les ponts se trouvent dans un danger imminent et qu'il est de l'intérêt des habitants qui occupent des maisons sur le pont Notre-Dame d'en déloger.
Ainsi, chaque année, la vie de la capitale est paralysée par la menace des crues et la Seine impose son rythme à la ville. En 1785, on amorce la destruction des maisons sur les ponts parisiens. Et le sieur Gersin, où est-il allé avec ses porcelaines du Japon et ses clincailleries de luxe? Du côté de l'avenue Montaigne, du faubourg Saint-Honoré ou de la rue de la Paix?
Voilà, donc il y a des spécialités. Sur le pont au change, on a plutôt des changeurs et des orfèvres. Sur le pont Saint-Michel, des fourbisseurs d'épées. Donc vous voyez qu'il y a une géographie du commerce sur le fleuve qui est assez connue. Donc Une fois que je vous ai présenté toutes ces activités, vous voyez combien la Seine était à la fois unique dans Paris, du fait des services qu'elle pouvait proposer, et combien elle était aussi un lieu de rendez-vous de toute la société parisienne qui la fréquentait pour faire ses courses. Et pour ceux qui ne faisaient pas directement leurs courses, c'est-à-dire le haut de la société parisienne, il y avait d'autres occasions de se retrouver au bord du fleuve. C'était les feux d'artifice qui étaient tirés. Ici, une représentation de Ragnée, c'est un feu d'artifice à l'hôtel devant l'hôtel de ville. C'était aussi sur le pont Royal ou encore sur la place Louis XV que les feux d'artifice étaient tirés. Pourquoi ? Parce que la Seine était quand même l'espace le plus vaste pour réunir le maximum de gens qui puissent assister à ces festivités. Et puis, secondairement, c'est vrai que feux d'artifice, risque d'incendie, le fait d'être proche de l'eau, c'était quand même aussi plus rassurant. Et là, vous voyez que on voit des tribunes qui sont dressées. Donc, selon son rang, on assiste aussi au feu d'artifice dans une position plus ou moins agréable. Alors, maintenant que je vous ai rapidement esquissé l'importance du rôle de la Seine dans Paris, dont on a finalement assez peu de traces aujourd'hui, comment et pourquoi la Seine a-t-elle perdu ce rôle éminent ? Je l'ai dit, la population de Paris a grandi évidemment au fil des siècles. Au XVIIIe siècle, on évalue quand même l'augmentation de 500 000 à 800 000 habitants. Il y a une accélération de l'augmentation de la population. Or, cet espace sur lequel doivent notamment se faire les ventes, vous voyez bien que cet espace n'est pas extensible à l'infini. Et donc, progressivement, ce que j'ai constaté au XVIIIe siècle, c'est de plus en plus de conflits, une augmentation des baux, puisque chaque activité, chaque bateau à lessive, chaque bateau de bain signe un bail avec la ville pour avoir le droit d'occuper l'espace fluvial. Et là, on a une augmentation du prix des baux parce qu'il y a une concurrence. On a aussi des conflits de plus en plus importants. J'ai parlé tout à l'heure du fonctionnement de la pompe de la Samaritaine. Vous pourrez écouter le gouverneur de la Samaritaine qui se plaint. Il se plaint parce qu'il a les eaux et les détritus des bouchers qui viennent encombrer la route, sa pompe. Et donc, il y a en fait une incompatibilité de plus en plus évidente entre les différentes activités installées sur la Seine. Il y a aussi des rivalités, notamment dans les chantiers de bois qui sont installés sur le port Saint-Bernard, à peu près là où vous avez l'Institut du Monde Arabe aujourd'hui. Et là, vous aviez à la fois le stockage du bois et l'arrivée des coches d'eau, puisque la Seine, j'ai oublié de le dire, est aussi utilisée pour le transport des voyageurs, que ce soit pour aller à Saint-Cloud ou pour aller jusqu'à Auxerre ou Montargis, c'est-à-dire que, et même jusqu'à Rouen. Donc, en fait, il y a un trafic très important. Et là, entre les coches et les marchands de bois, il y a aussi incompatibilité pour occuper et surtout des tensions pour occuper l'espace fluvial. Et on a la même bataille aussi entre les échoppes et les commerces qui sont de luxe, hein, qui sont installés au pied des maisons sur les quais ou sur les ponts. Donc les tensions vont se multiplier. Des arbitrages vont se faire, aussi bien de la part du roi que de la part du prévôt des marchands. Et on va progressivement décider au XVIIIe siècle que la Seine ne serait plus vouée qu'à l'activité de navigation. Et par conséquent, on va décider de chasser toutes ces activités sédentaires dont je vous ai parlé, qui occupaient les berges. Oui, je ne vous ai pas dit, il faut bien se rendre compte, vous voyez comment se fait le contact entre la Seine et le fleuve. Il n'y a pas du tout des quais maçonnés et hauts comme aujourd'hui partout. À beaucoup d'endroits, vous avez des berges en pente douce qui permettent un contact et une circulation plus facile entre le fleuve et la ville. Donc on va décider de chasser toutes ces activités sédentaires. Et ce que j'ai montré, c'est finalement l'émergence d'un nouvel urbanisme. Le mot est un peu anachronique, on parle d'aménagement ou d'embellissement. Un nouvel urbanisme avec d'autres critères. C'est d'abord la priorité à la navigation, c'est-à-dire à la circulation. On va détruire les maisons sur les ponts pour mieux circuler en ville aussi. Donc là, vous voyez que vous avez une volonté de fluidification aussi bien dans la ville que sur le fleuve. On va invoquer, bien entendu, des raisons sanitaires, toutes ces activités qui rejettent leurs déchets ou leurs saletés ou les eaux sales dans la Seine. On est de plus en plus sensible à l'idée qu'il faut lutter contre cette insalubrité. Et puis, il y a aussi des questions d'esthétique urbaine. On revendique d'avoir, ce dont on profite aujourd'hui, une vue dégagée sur le fleuve. Quand vous aviez les maisons sur les ponts, en fait, vous aviez un fractionnement du cours de la Seine. Vous ne pouviez pas profiter de la vue sur tout le cours du fleuve. Et une des preuves, si vous voulez, que le fleuve va devenir un lieu d'embellissement et un lieu d'aménagement urbain, c'est que la dernière place royale qui a été construite à Paris, aujourd'hui la place de la Concorde, c'est la place Louis XV qui est aménagée au milieu du XVIIIe siècle. Et c'est le roi lui-même qui décide d'installer cette place, la ville lui offrant la statue, à l'endroit où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire au bout de la ville, après le jardin des Tuileries. On est quasiment à l'extérieur de Paris. Mais cette place royale est bordée du fleuve. Et d'ailleurs, quand elle va être inaugurée, il va y avoir beaucoup de critiques parce que par rapport aux places royales précédentes, comme la place des Victoires ou la place des Vosges, vous voyez comment c'était. Les maisons formaient un écrin autour de la statue du roi. Là, certains vont dire qu'elle est totalement illisible, elle est ouverte à tous les vents. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques. Mais là, on voit bien qu'il y a un tournant dans les critères de l'aménagement urbain. Il va y avoir aussi de plus en plus une critique de la cohabitation entre la beauté des bâtiments et ses activités économiques. Et il y a des correspondances dans les années 1780 qui sont assez fameuses, où on explique à la maison du roi que c'est pas possible de tolérer des bateaux de blanchisseuses au pied du Louvre, alors que ça fait des siècles qu'il y en a. Là, ça devient incompatible et on demande de chasser les bateaux de blanchisseuses. Alors, dans un premier temps, parce qu'on sait qu'on ne peut pas les chasser du jour au lendemain, on propose de les peindre en bleu pour qu'elles soient... c'est textuellement écrit dans un courrier qui est adressé à la maison du roi. Donc, il y a vraiment cette nouvelle vision de la ville où les activités économiques vont être progressivement chassées. Alors, on va aussi aboutir finalement à... cette éviction de toutes ces activités sédentaires. Les ventes vont arrêter de se faire sur les ports à partir du début du XIXe siècle. Et finalement, le point d'orgue de cette coupure entre la ville et le fleuve, ça sera l'aménagement des voies sur berge qui va se faire dans les années 1960. Des voies sur berge, et là je vais vous faire écouter la dernière bulle, des voies sur berge qui pourtant avaient été déjà vivement souhaitées au XVIIIe siècle.
Jean de la Seine.
Élie de Beaumont. Voie Georges Pompidou. Voie express rive droite. En temps normal, domaine exclusif des voitures. Au XVIIIe siècle, c'est le domaine des gens. Jean de Paris. Qui ont animé de leur vie, de leurs cris, de leurs rires, de leurs disputes, les bords de la Seine. À la veille de la Révolution française, la densité des activités, le grouillement de la population sur les rives, l'indécence, la pollution, la concurrence entre tous, tout cela inquiétait les autorités municipales. La Seine ne parvenait plus à satisfaire les besoins de la population grandissante de la capitale. Nombreux alors sont les rêveurs qui imaginent des transformations radicales. Jean-Baptiste Élie de Beaumont, par exemple, avocat au Parlement et ami de Voltaire, en 1785, il propose de débarrasser les rives et les ponts de toutes les constructions accumulées au fil des siècles pour en finir avec tout ce désordre. Et puis, cela permettrait de profiter enfin de la vue.
Ainsi, les deux bords de la rivière auront de magnifiques quais qui établiront une double communication d'une extrémité de la ville à l'autre, dans toute sa largeur. Il n'y aurait pas une seule capitale en Europe qui eût des communications aussi nobles, aussi belle, aussi saine en même temps que le serait celle-là.
Les vœux de Beaumont seront réalisés au cours du XIXe siècle, destinant la Seine à la seule navigation, mais faisant d'elle du même coup un fleuve déserté et étranger à la ville. Et si le rêve d'Élie de Beaumont n'était autre que celui de la voie sur berge ?
Voilà, donc vous voyez que deux siècles avant que la voie Georges Pompidou n'ouvre, elle était déjà chaleureusement attendue pour mieux circuler dans la ville. Si bien que c'est vrai que la mise en œuvre des voies sur berge dans les années 1960 a été, on va dire, rédhibitoire pour donner envie aux Parisiens et aux touristes de fréquenter la Seine. Alors, il y a eu d'autres initiatives qui expliquent aussi finalement que la Seine se soit dévitalisée et qu'elle ait perdu à la fois son attrait et son intérêt économique. C'est la construction des canaux parisiens qui avait pour objectif de déporter une grande majorité des arrivages sur Paris à la Villette, autour du bassin de la Villette, avec la jonction que vous voyez au nord entre le canal Saint-Denis, le canal de l'Ourcq et le canal Saint-Martin. Donc ça, le réseau est achevé en 1827. Ça va aussi contribuer à dévitaliser la Seine. Alors les Parisiens vont résister, hein, évidemment, j'ai beaucoup utilisé dans les archives, et ça c'était heureux, les résistances des teinturiers qui ne veulent pas partir. Donc on entend dans la bulle sur les teinturiers le mémoire qu'ils produisent auprès du roi pour ne pas être chassés. Les habitants des maisons sur les ponts vont aussi tenter de résister, mais finalement tout ce beau monde va être balayé progressivement et chassé des bords de Seine. On va finalement progressivement, à partir du 19e siècle, voir la Seine se muséifier, c'est-à-dire ne plus avoir d'attrait finalement que pour les monuments qui l'abordent et au 19e siècle, avec les expositions universelles, on va aussi voir la mise en place des bateaux-mouches, qui sont aujourd'hui l'outil privilégié, notamment pour les touristes, pour découvrir à la fois la Seine et surtout Paris depuis la Seine. Alors, pour conclure, comme ça on aura un peu le temps de discuter, toutes ces activités qui ont disparu expliquent la forte polarisation de la vie parisienne sur la Seine, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Donc c'est certes, la Seine est très belle, certes elle est aussi de proportions assez modestes, hein, par rapport au Tibre ou à la Tamise dans d'autres grandes capitales où là vous avez des fleuves beaucoup plus larges. Là si vous vous baladez au bord de la Seine, l'autre rive est assez proche, c'est assez intime comme lieu de promenade. Mais le choix qui a été fait à partir avant la Révolution française, j'insiste sur ce développement et cet épanouissement de ces nouveaux critères d'urbanisme bien avant Haussmann. C'est-à-dire que Haussmann ne va faire que mettre en œuvre cette volonté de circuler, cette volonté d'assainir, cette volonté d'embellir. Mais ce que Haussmann va avoir et qu'on n'avait pas au XVIIIe siècle avec la Révolution française, c'est les moyens techniques et les moyens financiers. Mais quand même, la détermination à voir se modifier la Seine, la meilleure preuve, c'est quand même que en 1786, il y a un grand emprunt qui est lancé par le roi pour financer les travaux, et les maisons sur les ponts commenceront à être détruites dès le milieu des années 1780. Or, la conjoncture financière est absolument calamiteuse, ça sera quand même une des causes de la Révolution française. Donc ça montre quand même que dans un contexte financier très tendu, on a quand même engagé ces travaux pour transformer la Seine. Donc, toutes ces activités ont progressivement disparu. Ce qui n'était pas prévu dans les calculs des ingénieurs et des pouvoirs de la fin du 18e et du 19e, c'est l'arrivée d'un concurrent sérieux, c'est-à-dire le chemin de fer, qui a encore bouleversé les plans, c'est-à-dire qu'on avait mis, on va dire, tous les espoirs dans la Seine. Et puis, à partir de 1830, 1840, le chemin de fer arrive et là, il va y avoir une concurrence. Mais le port de Paris va rester quand même le port le plus important jusqu'au début du XXe siècle. Et quand je dis port de Paris au début du XXe siècle, évidemment, ce n'est pas le Paris du XVIIIe siècle. Ce qui va se développer beaucoup, c'est les ports en périphérie et les ports de banlieue qui vont accueillir tous les pondéreux et toutes les marchandises. Alors, il n'en reste pas moins que la Seine reste quand même très présente dans notre vie quotidienne. La crue de 1910, alors ça m'avait beaucoup amusé, parce que vous voyez là en haut, vous avez une carte postale de 1910 sur la crue, donc qui a fait les ravages qu'on connaît. En 2010, on s'est dit, est-ce que ça va recommencer? Ça n'a pas tout à fait recommencé, mais ces dernières années, et là, je suis allée moi-même faire une photo du même pont avec... en 1910, c'était... La photo a beaucoup fixé l'étonnement des Parisiens face à ce qui arrivait. Et vous voyez qu'en 2016, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vit dans l'idée que le fleuve est maîtrisé. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'après la crue de 1910, on a pris des mesures qui ont été réalisées très progressivement. Après la Seconde Guerre mondiale, on a construit des barrages en amont pour retenir l'eau quand il y a beaucoup de pluie. Mais les barrages qui existent aujourd'hui ne retiendraient qu'un quart de l'eau qui est arrivé sur Paris en 1910. Or, aujourd'hui, Paris et la région parisienne, ce n'est pas du tout le même niveau et la même densité au niveau des activités et des logements. Donc, si on avait une crue identique à 1910, ça serait relativement la catastrophe. Mais bon, je ne vais pas terminer avec une note si négative. Simplement, depuis septembre 2016, vous avez dû entendre parler du parc Rives de Seine. Donc, la maire de Paris a décidé de piétonniser toute la voie sur berge rive droite. Il y a déjà une partie qui avait été piétonnisée rive gauche vers entre le musée d'Orsay et le musée du quai Branly. Et l'idée, c'est qu'on retrouve une familiarité et un plaisir de se promener au bord de la Seine. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette piétonnisation, donc, qui est contestée. Hein, l'arrêté municipal a été retoqué, puis elle en a pris un second. Bon, je n'ai pas le temps de refaire ça, mais c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a quand même, il y avait tellement de voitures qui passaient au bord de la Seine que celles qui ne sont plus en bas sont maintenant en haut. Donc moi, j'ai pas mal discuté avec des bouquinistes récemment. C'est vrai qu'ils ne sont pas ravis parce que d'abord, les piétons maintenant sont plutôt en bas. Donc les bouquinistes, c'est quand même aussi un emblème des bords de Seine. Alors bon, je crois que l'idéal, ce serait qu'ils descendent finalement à terme, parce qu'en haut, non seulement ils ont moins de clients, mais ils ont beaucoup, beaucoup plus de voitures. Donc pour eux, c'est un peu difficile de continuer à travailler. Et donc, c'est la mairie de Paris qui nous a financé donc, pour faire cette balade sonore et ces bulles sonores. C'est pas encore signalisé sur le parc Rives de Seine, mais je ne désespère pas d'y parvenir. Je suis assez tenace. Par contre, les nouveautés, puisque cette volonté de diffuser notre savoir académique au plus grand nombre, nous poursuivons nos travaux et cette ambition avec Sarah Gainsburger. Donc, depuis ce flyer et le site que vous avez sur ce flyer, on a développé une web app. Et donc, vous pouvez aussi écouter Jean de la Seine en étant géolocalisé et en allant sur passe-ici.fr. Là, on a... Si vous voulez, on a avancé techniquement parce qu'on a récupéré aussi des appels à financement qui nous ont permis de développer la technique parce que là, on a fait ça assez modestement parce que notre cœur de métier, c'était quand même d'être chercheuse. Notre idée, et bon, moi, je suis historienne de Paris, enfin de la ville et de Paris, notre idée, c'est aussi de ne pas laisser le champ libre à, on va dire, toute une série d'acteurs qui maîtrisent très bien les outils numériques ou les outils techniques, mais qui, au niveau des contenus, et ça, je peux vous dire que sur Paris, souvent, c'est quand même accablant. Donc, c'est à nous, chercheurs, d'occuper le terrain. On a la capacité de donner des contenus, on va dire, labellisés. Mais après, c'est vrai qu'on a besoin de partenaires parce que on n'est pas compétent du point de vue technique. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Donc, sur passici.fr, vous pourrez entendre la deuxième série qu'on a produite de bulles sonores. C'est... Les Parisiens racontent la Shoah, et là c'est des podcasts dans deux rues de Paris, on a l'intention d'en faire une dizaine, où là on raconte les relations entre juifs et non-juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, sous Vichy, et comment finalement il y a pu y avoir aide ou dénonciation, et comment les juifs, à l'échelle d'une rue, en observant les relations entre familles, avec la possibilité aussi de voir les documents d'archives à partir desquels on a travaillé en cliquant sur des petites fenêtres qui apparaissent sur votre écran. Et puis, les éditions Hachette ont entendu le parcours des bulles sonores et elles m'ont demandé de faire un petit guide bleu. Ils ont une collection, les carnets des guides bleus. Il vient de sortir début octobre. Ils m'ont demandé de faire ce que je vous ai raconté là dans un petit guide qui est quand même très maniable. Il y avait déjà le Louvre, il y avait le musée d'Orsay, il y a Pompéi. Le défi là quand même, c'était qu'il fallait que je balade le visiteur, donc de l'Institut du monde arabe jusqu'à la Concorde, donc sur la partie piétonnisée. Mais il fallait que je le balade en lui racontant ce que je viens de vous raconter. Or, il n'y a pas énormément de traces de toute cette vie sur la Seine, donc voilà, il a fallu quand même que je fasse preuve d'imagination. Parce que c'est vraiment à droite, vous voyez, à gauche, c'est vraiment un guide, hein, c'est pas juste un récit sur la Seine et Paris. Et ils ont donc eu la bonne idée, parce que c'est des éditeurs modernes, de mettre des QR codes. On peut donc flasher en faisant la promenade avec le guide les QR codes et entendre les bulles que vous avez entendues. Les 19 bulles sont dans le guide. Voilà. Merci. Je peux répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez.